Ok, donc on va démarrer, Bezrat Hashem, notre cinquième cours d'introduction sur la Tefila. Et après seulement, on pourra commencer la Tefila. Donc, sur quel point on s'est arrêté la semaine dernière? On s'est arrêté sur le point, on a dit que une question qu'on se pose très souvent, c'est comment ça se fait qu'il y a tellement de Nusraot, comment ça se fait qu'il y a tellement de versions dans la Tefila? Si à la base on est parti donc d'une même base, comment ça se fait qu'au résultat final, on voit des dizaines de différences dans les, donc des dizaines de différences dans les sidourim, mais comment ça se fait? D'où c'est venu? Alors on a expliqué la semaine dernière que, en vérité, quand on analyse, on voit que même s'il y a beaucoup de nuances dans les sidourim, et qu'il y a beaucoup de sidourim, mais de manière générale, il y a deux pistes. Il y a le Noussar Sfarad et le Noussar Ashkenaz. Noussar Sfarad, Noussar Ashkenaz. Alors, on a expliqué que d'où vient ce Noussar Sfarad et Noussar Ashkenaz, à quel moment il y a eu cette différence entre les Sfarad et Ashkenaz sur la Tefila. On a dit qu'en vérité, c'est une différence qui est très ancienne, c'est une différence qui date déjà depuis Babylone et Jérusalem. À l'époque du Talmud de Babylonie déjà, à ce moment-là, on avait déjà une Tefila qui était différente de la Tefila qu'on faisait à Jérusalem. Donc il y avait des petites différences. D'accord? Des différences comme on a dit par exemple. Nous on dit Ata Kadosh Veshimcha Kadosh. D'accord? Comme ça on dit. En Eretz Israël, ils disent Kadosh Ata Venorash Mecha Ven Elokam Ibaladecha. Nous d'ailleurs on le dit dans la Tefila de Rosh Hashanah. Kadosh Ata Venorash Mecha Ven Elokam Ibaladecha. Kakatouv avec Bachen, Sebastian, bon, etc. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de nuances, mais qui existent en vérité déjà depuis l'époque de la Gemara. Donc après, on a eu deux grandes pistes. On a eu deux grandes pistes. De manière générale, le sidour de Rav Amram Gaon, qui est le premier sidour qu'on connaît, qui lui a suivi le Noussar de Babel, de Babylonie, et c'est lui en vérité le premier sidour séfarade qui existe. C'est lui la base de tous les sidourim. Ça veut dire que quand on remonte, on arrive à Rav Amram Gaon. Rav Amram Gaon, d'accord, c'est le sidour séfarade. C'est le premier sidour séfarade. Bon, après, bien sûr, il y a eu des rajouts, on a rajouté des piyutim, des chants, etc. Mais le premier sidour séfarade, c'est le sidour de Rav Amram Gaon, qui a été après travaillé par la suite, par, donc, comme on l'a dit, localement, dans chaque endroit. Ça, c'est côté séfarade. Côté Ashkenaz, on a dit, le premier sidour, c'est le sidour de Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon a vécu en Égypte. Avec eux en Égypte, donc c'est intéressant puisque l'Égypte c'est un pays qu'on considère comme être un pays séfarade. Et pourtant, en Égypte, ils suivaient les minagim de Eretz Israël. Donc en Eretz Israël, ça veut dire c'est le Noussar Ashkenaz. Noussar, bon, c'est pas la même chose que notre Noussar. Donc le deuxième sidour, on a dit, c'est le sidour de Rav Saadia Gaon, qui a été peaufiné par la suite par le sidour qui s'appelle Marzor Vitri. Marzor Vitri, c'est un sidour qui vient du Beth Amidrash de Rashi. D'accord? Donc ça, c'est les références. Références, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que quand on remonte en haut de la chaîne, on arrive à ça, on arrive à la différence qu'il y avait entre Babylonie et Eretz Israël. Les différences, donc Babylonie c'est le Noussar Sfarad, et Eretz Israël c'est le Noussar Ashkenaz. D'accord? Ça c'est la différence. Bon. Ça veut dire, on sait que c'est déjà depuis l'époque de la Gemara, il y avait déjà des nuances, mais la première référence qui est écrite clairement, c'est à l'époque de Rabis, donc c'est la différence entre Rav Amram Gaon et Rav Saadia Gaon. C'est l'époque des Gaonim, ça veut dire il y a à peu près 1200 ans d'aujourd'hui. D'accord? 1200 ans d'aujourd'hui, à peu près. Entre 1200 et 1300. Donc, ça c'est la première référence. Certainement que ça existait avant aussi, mais le premier sidour écrit qu'on a, c'est Rav Amram Gaon, d'un côté, donc pour le Noussar Sepharad, et Rav Saadia Gaon pour le Noussar de Eretz Israël. Bon. Maintenant ensuite, par la suite, une fois qu'on avait cette base-là, après par la suite, comme on l'a dit, localement, on a eu beaucoup de chachamim qui ont rajouté des piyutim. Des piyutim, ça veut dire des chants. Des chants, donc c'est vraiment de la liturgie. Comme par exemple, le Yigdal Elohim Chai. Ou le Adon Olam Asher Malach. Ou le, qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme piyut dans la tefillah? Il n'y a pas beaucoup dans la tefillah de Shacharit des piyut, hein. Ou bien par exemple, oui, par exemple, ce qu'on dit juste avant le Shir Shalom, Tefillah le David et Hashem Ozrani, c'est des Teilim, mais donc c'est des versets de Teilim, mais le fait de les placer dans cet endroit, ça a été rajouté localement. Après, c'est devenu un minag. Ça, c'est des choses qui ont été rajoutées. C'est des choses qui ont été rajoutées par la suite. C'est ce qu'on appelle des piyutim. Et là, sur les piyutim, il y a beaucoup de différences. Et quand on s'approfondit, on voit qu'en vérité, ce qui forme les différences entre les différents sidourim, même par exemple, vous prenez la différence entre un sidour, allez, Ishmatliach et Patach Eliaou, vous allez voir que sur des textes comme les psouké des Imra, ce que j'appelle, c'est à partir de Baruch Shamar jusqu'à Ishtabach. Sur ça, il n'y aura pratiquement aucune nuance. Pratiquement la même chose. Le Hazyashir, c'est le même, le Hashre, c'est le même. D'accord ? Sur le schéma, il n'y aura pas de différence, bien sûr, parce que le schéma s'écrit dans la Torah. Sur l'Amida, il y aura très peu de différence. À quel moment vont venir les différences ? Les différences vont venir dans tout ce qui est piyutim, c'est-à-dire tout ce qui est les teizim qu'on a rajouté en plus. Par exemple, le psaume de la fête. Vous voyez, ça n'a jamais existé dans le sidour de Rav Amram Gaon. Et dans le sidour de Rav Amram Gaon, et dans le sidour de Rav Sadia Gaon, le psaume de la fête n'a jamais existé. Ça n'existe pas. D'accord ? Oui, ça s'est rajouté après localement. C'est une très bonne chose, mais ça s'est rajouté localement. Ça, c'est ce qui rentre dans la catégorie des piyutim. Ça, c'est de la liturgie, ça s'est rajouté localement. Et bon, bien sûr, celui qui veut rajouter, il peut rajouter. Et aujourd'hui encore, on a des chachamim qui rajoutent, des fois, qui rajoutent selon les besoins, selon les... Bon, pourquoi pas. Mais il faut savoir qu'à la base, ça n'a jamais existé. Et sur les éléments de base, on a très très peu de différences. Bien sûr qu'on a les deux grandes versions, Ashkenaz et Sepharad, mais dans Ashkenaz et Sepharad même, on a très très peu de nuances entre les sidourim sur les textes de base. Donc c'est pour ça que, même si on trouve pas son propre sidour et qu'on prend un autre sidour, c'est pas grave. Puisqu'en général, c'est très très rare qu'il y ait des nuances dans les textes de base. C'est des tout petites nuances. En général, il n'y a pas de nuances. En général, c'est les mêmes textes. D'accord ? Alors, est venu le Harizal par la suite. D'accord ? Le Harizal est venu par la suite. Et il nous a démontré qu'en vérité, ce n'est pas deux versions qu'il y avait dans la Tfila, mais c'est 12 versions. Là, jusqu'à présent, on a dit qu'il y a deux versions. Ashkenaz, Sepharad. Après, il y a deux nuances locales. Le Harizal est venu, il dit non. Même si on n'en connaît que deux, mais ce n'est pas deux qu'il y a, c'est 12. Pourquoi 12? Il a expliqué que dans les cieux, il y a 12 fenêtres. Et chaque tribu, si elle veut que cette fila soit acceptée, doit passer par une fenêtre particulière. Donc pour chaque fenêtre, il y a une fila différente. Bon. Et selon ça, qu'est-ce qu'a dit l'Arizal? L'Arizal a dit, moi je vais faire une 13e porte, comme la 13e porte qu'il y avait dans la mer Rouge, 13e passage. Cette 13e porte, c'est un passe-partout. Et ça, c'est le Noussach Arizal. Le Noussach Arizal. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc, tous les Sidourim Sepharad sont basés sur le Noussach Arizal. Le Tehillat Hashem avec lequel on prie est aussi basé sur le Noussach Arizal. C'est quoi la force du Noussach Arizal? C'est que le Arizal a dit, moi, c'est la 13e porte qui passe partout. D'accord? Alors, c'est intéressant quand on voit dans le texte du Arizal, enfin, le Arizal n'a pas écrit de livre. Donc, c'est le Pri Etzraïm, son élève Rabbi Chaim Vital, qui l'a écrit. Il dit, Beshorche aminagim sheyesh chilukim ben ashkenazim ou ben sfaradim katalonim veitalinim. D'accord? Donc on avait déjà beaucoup de différences entre les ashkenazes, les sépharades, les italiens, d'accord? Etc. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ces différences-là, en vérité, ça correspond à quoi? Sheyesh yudbet shearim barakia, il y a 12 portes dans le ciel, neged yudbet shvatim qui correspond aux 12 tribus. Vechol echad olat filato derer shear echad. Et chacune des tribus, sa tefila monte par une des portes. Et ce sont les portes qui sont mentionnées à la fin du livre d'Ézéchiel. Prenez le livre d'Ézéchiel, vous verrez, il y a deux portes là-bas, il y a 12 portes. D'accord? Si vous voulez savoir les noms, bon, ça va pas nous avancer grand-chose, mais pour le Harizal, ça lui avançait beaucoup. C'est les 12 portes qui sont écrites à la fin du livre d'Ézéchiel. Mais il nous dit, le Harizal, puisque nous maintenant, alors attendez. Il dit comme ça. Il dit, la reine, avant de parler de la 13e porte, il dit, c'est pour ça que c'est très important que chaque personne doit garder le noussar de la tefila qu'il a commencé. Pourquoi? Parce qu'il dit, puisque je me suis habitué avec une porte, depuis mes parents, on m'a appris que toi tu passes par la porte numéro 2. Si maintenant je dis, bon, maintenant je passe par la porte numéro 3, c'est pas bon. Parce que la porte numéro 3, c'est pas fait pour toi, la porte numéro 3, c'est pour une autre tribu. Bah, le problème qu'on a maintenant, c'est quoi? C'est que l'Arizal nous dit qu'aujourd'hui, on ne sait pas de quelle tribu on fait partie.
Oui.
D'accord? Qu'est-ce qu'a fait le Harizal? Qu'est-ce qu'il fait le Harizal? Le Harizal a créé le 13e Noussar, la 13e porte. Et il a témoigné que dans son Noussar, il a mis un petit peu de chacun des 12. De manière à ce que c'est un passe-partout qui ouvre toutes les portes. Et ce Noussar Harizal, il a dit, tout le monde, le Harizal a dit, ce Noussar-là, ce texte que j'ai fait, tout le monde peut le lire et c'est bon pour tout le monde. Alors, bien sûr, vous pouvez vous imaginer que lorsqu'il a dit ça, il s'en est pris sur la tête, parce que les gens disent, oui, qui tu es, etc. Bon! En tout cas, la pilule est passée. Aujourd'hui, ça a été accepté. Il n'y a pas un sidour sépharade qui n'est pas basé sur le Noussach Arizal. Ça n'existe pas. Tout le monde est basé sur le Noussach Arizal. par la suite.
Et où il a pris les textes pour retrouver les 12 portes? Parce qu'au départ, il n'y en avait que deux. Alors, où est allé chercher les textes pour...
C'est la fin d'Ézéchiel.
Donc, heureusement qu'on a cette 13e porte.
Oui. À la fin d'Ézéchiel.
Il y a quoi? C'est des, y a les...
c'est des portes dans le ciel.
Non, t'inquiète pas, on a tout prévu.
Alors
hein? On a tout prévu.
Non, mais les textes, oui. Ils étaient déjà condensés dans les deux...
Il s'est condensé, mais bon, apparemment, le Harizal nous disait qu'on passait à côté de quelque chose. Et c'est pour ça. Et tout le monde a accepté. Hein. Alors, tout le monde a accepté chez les Sfaradim. Les Ashkenazim, ils ont dit, bon, bah, nous, on garde notre Noussach Ashkenaz, comme on a depuis toujours, depuis Eret Israël, donc on bouge pas de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est par la suite sont venus les Chassidim, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il est venu à 300 ans. Qu'est-ce qu'a dit le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov a instauré, il a dit, bien que on est Ashkenaz, mais je pense que ce que l'Arizal dit est très juste, donc il faut qu'on suive le Noussach du Arizal. Donc vous pouvez vous imaginer le tollé que ça a fait. C'était une des raisons principales des attaques que le Baal Shem Tov a reçues. Et le Noussach qu'on a ici, le Tehillat Hashem, c'est basé donc sur le selon le, ce que le Baal Shem Tov a demandé. Donc c'est un Noussach Arizal. C'est une variante du Noussach Arizal.
Une variante.
Donc je vous dis, pourquoi ça me fait rire moi? Parce que quand je vois que les Chassidim, le Chassidim se sont fait gronder entre guillemets chez les Ashkenazim parce qu'ils ont pris le Noussach Sfarad, ici c'est le contraire. C'est un fait. Vous voyez, regardez. C'est écrit, donc, quand vous ouvrez la Tachem, c'est écrit clairement Noussach Arizal. C'est Noussach Arizal. Alpi Noussach Arizal. Fatah Eliyahu, c'est aussi Noussach Arizal. Tous les sidurim sfarad qu'on a aujourd'hui, c'est le Noussach Arizal. Si vous voulez chercher un sidour qui n'est pas Noussach Arizal, vous allez chercher dans les sidurim du Yémen. D'accord? Bon, c'est vrai qu'ils sont aussi séfarades. Les sidurim du Yémen, eux, n'ont pas suivi le Arizal. Eux, ils ont des sidurim qui sont basés sur un sidour du Rambam, de Maïmonide. Et ils sont restés dessus. Vous verrez, il y a des grandes différences. Les Yéménites dans leur fila, c'est pas du tout la même que la nôtre. C'est pas du tout la même chose.
On peut penser que dans une communauté, s'il y avait plusieurs fenêtres dans plusieurs tribus, ouais. C'était du n'importe, pas du n'importe quoi, mais c'était une cacophonie.
Allez,
chacun priait.
Il faut comprendre aussi autre chose. Il faut comprendre qu'à l'époque, le phénomène d'aujourd'hui n'existait pas. Aujourd'hui, on a un problème. C'est qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est un petit peu le problème de kibbutz galouyot. C'est-à-dire que aujourd'hui, on s'est rassemblés en France, d'accord? Mais en vérité, il n'y a personne qui est français. Vous avez des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, des Ashkénazes, et on essaye de s'entendre. Mais jusqu'au siècle précédent, ça n'existait pas, ça. D'accord. Ça n'existait pas.
Bah, y avait rien de français.
Celui qui était, par exemple, d'accord, un Français qui venait et qui déménageait en Tunisie, il prenait le Noussach du pays, et c'est tout, c'est fini. Il n'y avait pas le même problème qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on est venu en France, on est venu en Eretz Israël, c'est là que ces problèmes se sont posés. Ces problèmes n'existaient pas à l'époque. Donc le Harizal nous dit que avec son Noussach, c'est la 13e porte. C'est la 13e porte qui ouvre toutes les portes. Alors après, le Maguide de Meserich, par la suite, il a expliqué plus longuement qu'est-ce que ça veut dire ce concept de 13e porte. Bon. Ce concept de 13e porte, il a expliqué plus longuement. Il a dit qu'on sait que la Tefila, c'est comparé à une échelle. On va parler bientôt de l'échelle de Yaakov. Bon. La Tefila, c'est comparé à une échelle. Et il a expliqué qu'en vérité, pour chacune des tribus a son échelle. Vous avez remarqué que dans la Tefila, on va en crescendo. Plus on avance, plus on monte. On monte, on démarre depuis Baruch Shamar, après on monte, après on commence à parler de la nature, après des anges, après le schéma, après l'Amida, et après on va en décrescendo. Et le Maguide Meserich a expliqué que pour chaque tribu, pour chaque porte, il y a une échelle différente. Et c'est pour ça que quand on prend la mauvaise échelle pour la mauvaise porte, c'est pas bon. C'est pour ça que le Harizal a dû innover et faire une échelle passe-partout. Donc c'est des échelles en vérité. C'est une échelle passe-partout, que cette échelle-là, elle ouvre toutes les portes. Enfin, elle ouvre toutes les portes. C'est peut-être pas un bon terme, ouvrir toutes les portes. Ça veut dire qu'elle nous permet de monter.
C'est une porte de
d'accord chute. Elle nous permet de monter et d'arriver à toutes les portes.
Oui,
l'échelle nous permet d'arriver à la porte. C'est comme ça qu'expliquait le Maguide de Meserich. D'accord. Donc ça c'est le Noussach Arizal. Ok. Donc oui, bon, donc ce que je viens de vous dire aussi, la même chose, dans le Rida a dit pratiquement la même chose, dans des mots différents bien sûr, mais il a dit pratiquement la même chose. Ok. Oui. Alors, donc, ça veut dire qu'on voit que le Harizal, bien qu'il était Ashkenaz, ça veut dire que le Harizal c'était très spécial, parce que le Harizal, il était Ashkenaz, mais il est parti, il a fait sa Aliyah, il est arrivé en Eretz Israël, d'accord? Et en Israël, on suivait les Minagim Sepharad. C'est d'ailleurs quelque chose que le Rav Avadia Yosef il répète très souvent. Il dit, puisqu'on est en Eretz Israël, il faut suivre le Minagim Sepharad. Et le Harizal, d'accord, qu'est-ce qu'il a fait? Donc bien qu'il était Ashkenaz, on voit clairement qu'il est passé au Noussach Sepharad. Le Noussach du Harizal, c'est un Noussach du Harizal, c'est un Noussach Sepharad. Bon. Alors ensuite, quand on est arrivé au Nussar des Chassidim, là je vais vous expliquer pourquoi il y a quand même des différences, des nuances entre le Tehillat Hashem et le Patach Eliyahu.
D'accord ?
Oui. Parce qu'a priori, tu me dis que les deux c'est Nussar Harizal, mais pourquoi il y a des différences ? Il y a des différences beaucoup plus que les différences qu'il y a entre un cisours tunisien et un marocain. Il y a des différences beaucoup plus grandes. Alors c'est très simple. Parce que le Baal Shem Tov et les Chassidim, lorsqu'ils ont adopté le Nussar du Harizal, ils ont adopté le Nussar du Harizal uniquement pour les éléments de base, qui sont les éléments sur lesquels le Harizal s'est exprimé. Le Harizal n'a pas parlé des piyutim. Le Harizal a parlé des éléments de base. Donc, le schéma, l'amida, les psouké des imra, les éléments de base qui forment la tefila. Mais pas sur le décor. Donc, les chassidim, lorsqu'ils ont adopté le Nussar du Harizal, ils ont adopté que le Nussar de base du Harizal. Mais les piyutim locaux, qu'ils avaient déjà en Ashkenaz, ils les ont gardés. C'est ce qui explique la différence. C'est pour ça qu'on a des différences. Alors, les différences dans l'année, on en a très peu. Ça sera sur les mises morts des fêtes, des choses comme ça, il y en a très très peu. Mais il y a beaucoup de différences dans les tefilas de Rosh Hashanah et de Kippour. Pourquoi ? Puisque les tefilas de Rosh Hashanah et de Kippour sont essentiellement des piyutim. À l'époque de la Gemara, quand vous prenez le sidur de Rav Sadia Gaon, d'accord ? Et le sidur aussi de Rav Sadia Gaon et l'autre qui est le sidur de... Rav Amram Gaon, d'accord ? Vous verrez que la tefila de Yom Kippour là-bas, on aurait pu la finir en une heure. Les gens à l'époque, ils parlaient à Dieu tout seul. La tefila de Yom Kippour, nous aujourd'hui, on l'aurait fini en une heure. Il n'y a pas tous les piyutim d'aujourd'hui, il n'y a pas tous les kelnora, lila, tout, il n'y a rien. D'accord ? Rien de tout.
Bonjour.
D'accord ? Il n'y a pas Mikel Kamocha, il n'y a rien. Il n'y a rien de tout ça. Ça, c'est des piyutim. Ça ne veut pas dire qu'attention, ceux qui les ont composés, c'est des grands tzadikim qui les ont composés, c'est des textes qui cachent des secrets extraordinaires. Mais c'était pas à la base. C'est des piyutim locaux. Et c'est pour ça aussi que vous remarquerez qu'on a aussi des différences des fois entre, voilà, vous avez les Marocains qui disent ça, les Tunisiens qui disent pas ça, etc. Pourquoi ? Parce que c'est des piyutim locaux. Il y en a les piyutim locaux, ben pas tout le monde a accepté, ou bien pas seulement ça. C'est pas parce qu'un grand rave en Tunisie a décidé d'innover et de faire un nouveau piyut que tout le monde doit accepter ce piyut.
Mais là, il n'y a plus locaux ou pas locaux. Alors. Chacun fait ce qu'il veut.
Non, ce que je dis, c'est que le problème d'aujourd'hui, c'est que maintenant qu'on s'est rassemblés et que maintenant tu as dans la même salle des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, donc il faut bien trouver un terrain d'entente. Alors bon, Baruch HaShem, Dieu a fait qu'il y a eu un sidour qui est sorti qui s'appelait le Patach Eliyahu. Pourquoi le Patach Eliyahu a marché ? Pourquoi le Patach Eliyahu a marché ? Parce que il est sorti à la fin des années 70, donc l'année 78, et pour l'époque c'était une grande innovation parce que son caractère était très lisible. C'était ça, c'est grâce à ça qu'il a marché. Mais en parallèle, on a gagné que grâce à ça, au moins, tout le monde utilise les mêmes livres. Ça a évité beaucoup de problèmes. Parce que quand j'entends des témoignages, j'étais pas né encore en 78, mais quand j'entends des témoignages de gens qui me racontent ce qui se passait avant, d'accord, on avait le Bnei Tzion, mais on avait beaucoup de gens qui avaient leur sidour local qu'ils avaient ramené de chez eux, et on avait beaucoup plus de marloquettes. Aujourd'hui, qu'on a eu un sidour comme ça, ben on a réduit de beaucoup les marloquettes. C'est un très bon point. Mais, encore une fois, il faut savoir que c'est dommage de faire une marloquette pour des choses comme ça, puisque ce n'est pas des éléments de base de la tefila, c'est du décor. C'est comme si que je veux me disputer avec quelqu'un sur un air.
Ah, mais il y a la base.
La base, c'est la même. C'est Moussar Harizal. La base de Moussar Harizal, c'est la même. Tous les sidurim séfara d'aujourd'hui, à part les sidurim du Yémen, sont tous basés sur le Moussar Harizal. Le Harizal a été accepté par tous les séfaradim. Et par les chassidim.
Il y aura toujours des marloquettes à partir du moment où il y a deux...
Non, mais les marloquettes sont beaucoup moins grandes.
De tendance, entre guillemets.
Alors, chacun veut... Donc maintenant qu'on a compris ça...
Il y en a qui contestent
chacun veut son petit rouge.
Le Patach.
Oui, bien sûr. Mais encore une fois, pourquoi ils contestent ?
Certains points, je me souviens plus lesquels.
Mais... Beaucoup de points, moi je peux vous en donner des tas de points. Ouais. D'accord. Juste quand on compare, la semaine dernière on s'amuse à comparer le Patach Eliyahu avec Ishmael Tzliach, on a trouvé des dizaines de différences. Mais encore une fois, c'est des petites différences. C'est des différences, c'est ce qu'on dit par exemple Bishu Atar ou Bishu Atecha, c'est des différences, ouais. C'est des tout petites différences. Ça s'appelle pas des différences, ça c'est des petites différences
soulevées
par le temps.
Sur des choses.
Est-ce que ça touche?
Alors, des choses qui sont très importantes, ça touche des éléments de décor. Ça ne touche pas les piyutim. Alors attention, bien sûr, le décor c'est très important. Hein. C'est comme, hein, voilà, on est dans la construction, les finitions sont très importantes. Mais c'est, les éléments de base, ils sont tous basés sur le Nussar Harizal. Tous les mêmes.
Ah, pourquoi par exemple, d'accord, quand on fait pas avec Chamer ou d'autres, oui, mais il faut pas toucher ce minac, c'est important, tu es obligé de...
Alors, encore une fois, j'arrive au Véchamerou. D'accord? Le Véchamerou, par exemple. Le Véchamerou, vous prenez le sidour de Rav Sadia Gaon, de Rav Amram Gaon, ça n'existe pas, il n'y a pas. Le Véchamerou, c'est un pasouk qui a été rajouté localement, d'accord? Qui a été rajouté localement un peu avant l'époque du Bet Yosef, donc ça fait à peu près 500 ans. On s'est dit, pourquoi pas, avant de faire la Mida, on va dire un texte qui parle de, on va dire un texte qui parle de la fête. Donc le Shabbat, on dira le Véchamérou, et les fêtes, on dira les Moadés. Le problème qui s'est posé, c'est quoi? C'est que le Shulchan Aruch a posé la question, il a dit oui, mais le problème qu'on a, c'est qu'on sait très bien qu'on n'a pas le droit de faire aucune séparation, aucune coupure entre la bracha de Shomer et Amo Israël Laad, ou bien le sort du Shabbat, c'est Aporet Sukkah Shalom Aleinu Valkol Amo Israël Ve'al Yerushalayim. Donc ça veut dire qu'on parle de la Geoula et la Amida. Tout de suite, dès qu'on, c'est comme vous avez remarqué le matin, Baruch Atah Hashem Gaal Israël, tout de suite on démarre la Amida. Pourquoi? Parce que c'est la Gemara nous dit que c'est très important de lier notre Tefila, notre Amida avec la Geoula, d'accord? Comme ça, ça forme une seule entité. Même le Kaddish, normalement, on n'aurait pas le droit de le faire. La seule raison pour laquelle on fait le Kaddish, par exemple, le vendredi soir, on le fait, donc tous les Arvites, pourquoi on fait le Kaddish? On dit, parce que comme dans le Kaddish, on dit « Viyatmar pour Kane Vikarev Meshire », on parle de Mashiach, donc quelque part, on n'a pas changé de sujet. Vous me suivez? Je répète.
On change pas
de sujet. La bracha de Ashkivenu. D'accord? La bracha de Ashkivenu, on parle de la Geoula. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous amener la Geoula. Les Chachamim nous disent clairement dans le traité Brachot que il ne faut pas que dès qu'on parle de la Geoula, tout de suite il faut enchaîner sur la Amida. Tout de suite. Sans s'arrêter. D'accord? On n'a pas le droit de s'arrêter. C'est pour ça que le matin on ne s'arrête pas. Le soir, normalement, même le Kaddish, on n'aura pas le droit de faire. Et vous avez remarqué qu'on a un Kaddish entre les deux. D'accord? On a un Kaddish entre le Ashkivenu et l'Amida. Comment on fait Kaddish? Il me dit qu'on n'a pas le droit de séparer. La différence est très simple. C'est que le Kaddish, on dit Viyatmar pour Kane Vikarev Meshiché. Dans le Kaddish, on demande aussi à Kadosh Baruch Hu de nous amener Mashiach. Donc on n'a pas changé de sujet. Donc on va toujours gagner le fait qu'on va passer de Mashiach à l'Amida. Alors que le Véchamérou ne parle pas de Mashiach.
Oui, mais c'est des Rahamim qui l'ont
mis. Oui, attendez.
Qui on est,
attendez. Donc c'est de là qu'il y a une marloquette dans le Shulchan Aruch. Est-ce qu'on a le droit de dire le Véchamérou ou on n'a pas le droit de dire le Véchamérou? D'accord? Parce qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'on a le droit de le faire ou est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire? Il y en a qui vous... Ah ben, il y a une marloquette. La réponse, c'est ceux qui font Véchamérou, c'est très bien. D'accord? Je vais vous dire plus que ça. Dans le Tehillat Hashem, le Véchamérou est écrit. C'est dit, pour ceux qui ont l'habitude de le faire, le voilà. Mais on n'a pas l'habitude de le faire. Oui, parce que c'est pas d'aujourd'hui, c'est marloquette. C'est pas d'aujourd'hui. Mais encore une fois, si on analyse le Véchamérou, le Véchamérou, c'est quelque chose de local. C'est un piyout, c'est pas un élément de base de la tefila. L'amida ne change pas. C'est important de comprendre ça. Alors,
c'est important aussi de ne pas comprendre. Hein.
Si, bien sûr.
Mais c'est bon, de ne pas comprendre, qu'on finira par comprendre.
Quand on comprend sur quoi il faut être têtu, sur quoi il ne faut pas être têtu.
Ouais. C'est le chemin.
Alors, autre chose aussi qu'on voit, je parle du Moussar des Chassidim, je vais conclure avec deux points. Si déjà on parle du Moussar des Chassidim, ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque donc juste après que le Baal Shem Tov a demandé aux Chassidim de faire donc le Moussar du Arizal, ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu des gens, des premières tendances, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui le Moussar Sfard. C'est quoi le Moussar Sfard? Le Moussar Sfard, il y a eu des gens qui ont fait une fusion entre le Noussar Ashkenaz et le Noussar Sfarad. Par exemple. D'accord? Par exemple. Je vous donne un exemple. On a ici...
Les Juifs de Bordeaux, ils utilisent le Noussar.
Voilà. On a ici... c'est pas mon exemple. Attendez... Voilà, regardez. Shema Kolenu. Shema Kolenu, Hashem Elokeinu Avrahaman, Rachnukruz Vrahamanu, Mekabel Vrahamanu, Atsat Filatenu, Kikat Shema Tfilat, Sachadim Ata, Umilfanecha Makenu, Rekam Ateshevenu, Kiata Shema Tfilat Kolpe. D'accord? Alors, Kiata Shema Tfilat Kolpe, c'est un élément sfarad. Chez les Ashkenazim, ils disent Amcha Israel Berachamim. Ils disent pas du tout Kiata Shema Tfilat Kolpe. Alors, c'est quoi le Moussar Sfarad? C'est celui qui fait les deux en même temps. Il dit Kiata Shema Tfilat Kolpe, Amcha Israel Berachamim. Alors, il a beaucoup été critiqué, ce Moussar Sfarad.
Ah bon?
Alors, pourquoi il a beaucoup été critiqué? Parce qu'on a dit, attends, c'est, ça peut pas être au four ou au moulin.
Ou l'un ou l'autre.
D'accord? C'est pour ça que l'Admour Hazaken, par exemple, donc, qui est l'auteur de Moussar Chabad, lui, il a pas accepté. C'est un point important, c'est ce que je veux dire. Lui, il a pas accepté. Lui, il a dit, si on passe à Arizal, on passe entièrement à Arizal. Et il s'est fait taper dessus par les chassidim aussi. Il y a d'autres racismes, d'autres courants qui l'ont dit non, mais pourquoi pas, on peut faire en même temps Ashkenaz et Sepharad. Il dit non, moi je suis Sepharad à 100%. Vous voyez pourquoi ça me fait rire? Parce que maintenant je me fais taper sur le contraire. Pas grave. Alors, un autre point très important à comprendre. si quelqu'un prie dans le Noussach Ashkenaz, depuis qu'il était enfant, il prie dans le Noussach Ashkenaz, il a été éduqué par ses parents, prier dans le Noussach Ashkenaz. Et, par la suite, il a envie de changer, de passer au Noussach Arizal. Est-ce qu'il peut ou il ne peut pas? Alors, ça, c'est une grande polémique. Grande polémique. On a plusieurs avis qui disent que oui, au contraire, puisqu'on a dit que le Noussach Arizal, c'est une musclée qui est passe-partout, donc puisqu'elle est passe-partout, elle inclut aussi le passe du Noussach Ashkenaz. Donc, tant qu'à faire, pourquoi pas? D'un autre côté, on a les décisionnaires Ashkenaz qui sont défendus, ils ont dit non. Vous, votre Noussach, les Sfaradim, c'est un Noussach de Babylonie, c'est un Noussach d'exil. Nous, on a le Noussach de Eretz Israël, c'est le Noussach de la Géoula. Quand ma chère viendra, ça sera comme notre Noussach. Donc du coup, c'est une polémique sans fin, qui ne s'arrêtera jamais, à mon avis. D'accord? Donc, la question se pose, est-ce qu'on peut changer? À l'arrivée du Mashiach. Qu'est-ce qui se passera à l'arrivée du Mashiach? Je ne sais pas. D'accord? Mais encore une fois, le Arizal, ce qui est intéressant, c'est que le Arizal n'a jamais dit « mon Noussach est le meilleur ». Le Arizal a dit maintenant qu'on est en exil et qu'on ne sait pas de quelle tribu on fait partie. Moi, j'ai un passe-partout. Maintenant, quand Mashiach viendra, moi, je vais vous dire ce qui va se passer à mon avis. Quand Mashiach va venir et que chacun en saura à quelle tribu on appartient, bah, certainement que chacun aura notre passe individuel. C'est ça ce qui va se passer. D'accord ? Mais entre-temps, le mieux aujourd'hui, a priori, c'est le Noussach Arizal. Voilà. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on démarre la tefila à proprement parler.
C'est important de savoir de quelle tribu on est.
Oui, parce que de quelle tribu on est, c'est-à-dire que spirituellement, on vient d'un certain niveau.
Ouais.
Donc, on vient d'une sphère particulière. Ça veut dire que notre tefila doit passer par cette sphère. Tu comprends? Si tu passes par quelqu'un d'autre, ça va peut-être passer, mais c'est bridé. C'est pas chez toi. Les textes de la tefila, on a dit, il y a des bases. D'accord, qui ont été peaufinés par le... Tu avais une question, Julien?
Ouais.
Tu es parti? Oui.
Comment est-ce qu'on explique dans ce cas-là la différence, par exemple, entre les Akafot, Simchat Torah,
Encore une fois, les Akafot, c'est un texte... Les Akafot, c'est pas un texte de base. Les Akafot, c'est un texte local. Les Slichot, par exemple. Si tu savais les Slichot, même chez les Sfaradim, le nombre de versions qu'il y a dans les Slichot, j'ai vu au moins 5 Sidurim de Slichot. Parce que c'est des textes locaux. C'est quoi les Slichot? Les Slichot, on dit, on prie à Kadosh Baruch Hu, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner. Localement, il y avait des grands tzadikim qui ont dit, ben tiens, on va rajouter un texte. C'était des gens qui avaient l'âme d'un écrivain, et qui ont écrit. Okay. Tu comprends, mais c'est pas pour autant qu'ils ont demandé qu'on les impose aux autres. Mais ces problèmes ne se posaient pas avant, parce que les juifs du Maroc restaient au Maroc, les juifs de Tunisie restaient au Tunisie, donc le problème ne se posait pas. C'est aujourd'hui que les problèmes se sont posés.
Déjà au Maroc,
bonne journée.
Tanger, Marrakech,
Gaza, c'était déjà des différences. Mais c'est important de comprendre que les différences ne sont jamais sur des éléments de base.
Ouais, alors,
oui, alors je vous disais. Ça veut dire que c'est la question que vous avez posée.
D'où viennent les textes de la tefila quels sont les
chachamim? On les connaît.
On a expliqué. On a expliqué qu'à la base, on a expliqué la semaine dernière. On a dit qu'à la base, on a démarré avec. Oui.
Ouais.
On a expliqué que ça a démarré à la base par le sidour de. C'est comme une pyramide. Ça a démarré à la base par le sidour de Rav Amram Gaon et Rav Sadia Gaon, donc Ashkenaz et Sepharad. Mais c'était des sidourim très petits. Et ensuite, par la suite, localement. Il y a eu des textes qui ont été rajoutés dessus. Des textes de supplication.
D'accord.
Je vais vous donner un exemple. C'est comme si, par exemple, vous avez deux personnes qui vont aller parler au roi. On doit aller prier au roi. Donc, vous avez les deux personnes. Vous avez deux personnes. D'accord. Monsieur Ashkenaz, Monsieur Sfarad. Les deux ont écrit un texte. Et on dit, voilà, et ils l'ont transmis à leurs enfants. D'accord. On dit, voilà comment vous parlerez au roi. Mais après, il y a eu, dans les enfants, il y a eu des gens qui étaient très intelligents aussi. Ils se sont dit, bon, si on va parler au roi, ben, tiens, on va rajouter un peu d'une autre. On va en rajouter un petit peu, on va parler un peu mieux au roi, on va rajouter un petit texte. Et petit texte, c'est ce qui fait les différences qu'il y a, les nuances qu'il y a dans les tuyaux de gens.
Le rajout des psaumes de Tehilim dans la prière.
Pareil. La décision de rajouter un Tehilim dans la prière, c'est une décision qui a été locale.
Okay.
Voilà.
Merci beaucoup.
Donc, qui dit local, dit que ça pose pas de problème.
D'accord, ok. Bon, call to.
Call to.
Au revoir.